On accueille Elisabeth maintenant au 39-21. Bonsoir Elisabeth.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ça va et vous ?
Ça va.
Bon, bah, c'est ce qui compte. De toute façon, avec tout ce qui se passe, on a besoin de bienveillance et de bonnes ondes et positives.
Exactement. Alors, est-ce que vous parlez dans un téléphone ou vous avez un kit main libre ou quelque chose ? Parce que je vous entends comme si vous parliez dans un tube.
Là, ça va mieux ?
Ah, ça va beaucoup mieux, oui.
Parce que j'avais mis en haut-parleur.
Ah, voilà.
J'avais peur de ne pas vous entendre non, ça va.
Et l'important ce soir, c'est qu'on s'entende tous les deux, bien évidemment, mais c'est que toutes les auditrices et les auditeurs qui sont là avec nous vous entendent bien.
Eh ben, je leur dis bonsoir à tous déjà, et puis j'espère voilà, qu'ils seront contents de nous écouter.
Très bien. Quel âge avez-vous, Elisabeth ?
Alors moi, j'ai 43 ans.
D'accord.
Et du coup, je suis en train d'écrire mon livre, une autobiographie, en fait, sur ma vie. Voilà, mon livre va s'appeler « Lijba, ma vie, mon destin, mon histoire ».
Oui.
Voilà, pour des passages difficiles dans ma vie que j'ai vécu et qui aujourd'hui j'aimerais peut-être pouvoir pour que les gens voient que quand même malgré tout ce qu'on peut traverser dans la vie, on peut s'en sortir, on peut se battre et qu'on peut aller de l'avant.
Très bien.
Voilà, et du coup j'ai écouté un petit peu le témoignage d'avant, et c'est vrai que pour les jeunes, on est en train de voir justement avec quelqu'un qui travaille sur sa noix pour mettre un groupe de parole en place. Donc j'espère que ça se fera un jour.
Vous êtes où, vous m'avez dit ?
Alors moi, je suis dans la région parisienne, plutôt dans le 95, dans le
Val-d'Oise. D'accord, et donc vous voulez mettre un groupe de parole en place à Sanois, c'est ça ?
Alors, vers Sanois, c'est une psychopraticienne, Delphine Giffrard, qui va mettre ça en place.
Oui.
Justement, pour aider les jeunes, tout ce qui est au niveau de la dépression, burn-out.
Oui,
voilà, et du coup, je crois qu'il va y avoir des groupes de parole qui vont être mis en place. Donc, c'est encore en projet, mais voilà. Alors, j'espère pouvoir un jour rencontrer la jeune fille qui parlait juste avant, peut-être, pourquoi pas, ce serait intéressant.
On pourra vous mettre en rapport toutes les deux, si vous le voulez.
Voilà.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, et quand je parle de jeunes, de jeunes de 15 ans,
jeunes seuls.
16 ans, 18 ans, même 20 ans, des jeunes qui sont tout seuls.
Oui.
C'est-à-dire que les seuls amis qu'ils ont sont sur Internet.
C'est ça, des amis virtuels.
Alors, virtuels, oui, c'est le mot qu'on emploie souvent, mais je m'aperçois que pour ces jeunes, heureusement qu'il y a ces amis qui est là.
Oui, c'est vrai.
Elles ne sont pas tout à fait virtuelles, puisque ce sont de vraies personnes au bout du numérique, en tout cas du câble, je ne sais pas comment on va dire, de la fibre. Mais en tout cas, ces amitiés se lient, mais ce sont souvent des amitiés lointaines, vous voyez, 200, 500, parfois 700 kilomètres les séparent, donc ils ne se voient jamais. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi une certaine pudeur, même à se voir vraiment, vous savez, à travers les caméras. Elles ne se connaissent, ces personnes, que par chat, vous voyez, et finalement, heureusement qu'il y a ces amitiés-là. Mais des amitiés comme on a pu en connaître nous, puisque vous avez 46 ans, on n'est pas loin l'un de l'autre, quand il n'y avait pas Internet, tout ça. Hein, vous vous rappelez les amitiés, comment elles s'est créées ?
Oui, c'était
beaucoup plus spontané.
C'était beaucoup plus spontané, oui. C'est vrai que c'était... Moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Moi, j'ai une fille de 16 ans, hein, donc forcément... Alors, j'essaye toujours de la pousser à faire des rencontres plutôt physiques.
Oui.
Et à parler, voilà, pour... Parce que bon, des fois, elle me racontait, ses copines, des fois, sortaient avec des garçons, donc des petites amies un peu virtuelles, donc
oui.
Ils ne voyaient pas. Mais... Et du coup, c'est des choses qui me font un petit peu... Je me dis, comment peut-on aimer quelqu'un virtuellement comme ça, sans l'avoir jamais vu ?
Oui,
alors,
oui,
c'est possible. Hein.
Alors, ça appartient à cette génération, vous voyez.
Voilà.
Mais
voilà.
Pour nous, c'est vrai que c'est compliqué à saisir. Et de toute façon, ça... il peut y avoir quelques problèmes quand même, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un physiquement,
exactement,
on ne peut pas, il y a toute une partie.
On ne sait pas sur qui on tombe,
bah oui.
Il y a tellement de gens malhonnêtes et malveillants.
Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, tout simplement, sans être malhonnête, lorsqu'on parle de nous, comme ça, en chattant, mm-hmm. on va toujours se présenter sous un angle plutôt flatteur, ou en tout cas, on va mettre en avant nos qualités et tout.
Nos qualités, c'est ça. Et on oublie nos défauts.
Et voilà, et les défauts au quotidien, quand on rencontre quelqu'un, et puis mm-hmm. le fait juste de rencontrer le contact physique, hein, plonger son regard dans mm-hmm. celui d'un autre, les mots, je dis souvent que les mots ont une puissance et ont une importance capitale, parce que les mots, la nature nous a dotés de cette intelligence et du pouvoir des mots. Mm-hmm. Voilà, là, on n'est plus derrière un clavier, hein, on n'est plus derrière un téléphone,
ah oui, oui, oui.
un tout, on est dans la vraie vie. Et bon, c'est ça, c'est là où nous, parents, je pense qu'on peut être un peu inquiet de ce genre de relation.
C'est un petit peu inquiétant, parce qu'on n'a aucune visibilité là-dessus, on n'a aucun pouvoir ou de contrôle, on va dire. Et c'est ça où c'est le plus difficile à gérer pour les parents,
oui.
je pense.
C'est dangereux, de toute façon.
Ouais, ouais. C'est
il y a une partie de danger. Et si je dis ça, c'est que j'ai malheureusement été témoin de mésaventures assez graves, hein, d'adolescentes mmh. qui fuguaient du jour au lendemain et qui partait pour un garçon oui. qu'elle n'avait jamais vu,
oui.
ni d'Ève ni d'Adam. Et le pire...
J'ai déjà eu aussi autour de nous, ouais.
Ouais,
et
oui.
qui après se retrouve embêtée. Et j'ai même une personne qui s'est retrouvée sans rien du tout. Elle ne pouvait même plus rentrer chez elle. Elle n'avait
oui,
même
voilà.
plus d'argent pour rentrer.
Et le pire pire que j'ai connu, moi, c'est une jeune fille qui est maintenant dans un réseau de prostitution, vous voyez.
Ah oui, ça c'est encore plus... Au-delà,
terrible,
ouais.
ouais.
C'est vraiment des choses qui moi me font peur, parce que on n'a tellement pas du tout de contrôle là-dessus, et tellement il y a tellement de choses qui peuvent arriver tellement vite au final que ça fait peur.
C'est pour cela que je dis souvent aux parents, aux grands-parents qui écoutent cette émission, parlez avec vos enfants, questionnez-les,
oui,
parce qu'ils peuvent, vous savez, souvent quand ils sont dans leur chambre et tout, alors c'est vrai que parfois on se dit bon, allez, on est peinards, là, enfin, là, ils sont dans leur chambre, ils font leur truc et tout, mais il faut quand même, sans les surveiller, vous voyez, les épier, hein, parce que moi...
Oui, il n'y a pas besoin d'être... Il faut marcher à la confiance, en fait.
Exactement.
Moi, c'est ce que je prône avec mon mari, si
Exactement.
On fonctionne à la confiance. Après, voilà, mais toujours avoir un moyen de discussion et de libérer la parole, hein, de toutes les façons.
Il faut échanger.
D'écouter son enfant
oui.
et échanger pour qu'il puisse se confier aussi et avoir confiance en nous, pour nous dire les choses, pour qu'on... Enfin, c'est normal. Enfin, moi, je trouve avec ma fille, on échange énormément. Elle me raconte beaucoup de choses. Et je trouve ça extraordinaire, parce que je vois beaucoup de mamans qui sont un peu désemparées, qui ont le contact complètement rompu avec leurs enfants,
mmh.
et au final, se retrouvent complètement démunis. Et c'est compliqué de revenir à une communication fluide avec son enfant quand tout est rompu. C'est très difficile, et je vois beaucoup de parents, et même les enfants, hein, qui se retrouvent un petit peu déboussolés aussi, puisqu'ils n'ont plus de guide, on va dire, de parents.
Mmh.
Enfin, de modèle. Nous, à l'époque, bon, on avait un modèle de parents qui n'était peut-être pas forcément le meilleur, parce que bon, et voilà. Mais c'était quand même différent. Il y avait cette présence, voilà. Il fallait dire où on allait, à quelle heure on rentrait. Voilà. Aujourd'hui, c'est tellement les parents en demandent toujours à leurs enfants où ils vont, etc. Mais comme ils ont leur communication tellement, virtuelle, avec les amis et tout ça, qu'au final, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et du
Exactement.
Coup, je trouve que les parents sont déboussolés, et puis les enfants se retrouvent un petit peu seuls aussi.
Mmh.
C'est dommage.
Et
après,
il faut faire attention à... il faut faire attention
à tout
ça.
Communiquer, et puis garder toujours un œil sans trop... J'ai aussi des amis qui contrôlent tout. Hein. C'est l'extrême, en fait. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas en arriver à l'extrême, en fait. On fait confiance, on communique, et c'est beaucoup plus fluide. Et je pense que notre enfant nous fera confiance aussi de certaines choses, nous confiera, voilà, je ne sais pas, des choses qu'ils ont vécues dans la journée, que si on est trop dur aussi, bon, ils ne nous confieront plus rien. Si on est trop laxiste, bah, c'est pas trop bien non plus, parce qu'au final, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, voilà, c'est pas une solution non plus. Hein, les enfants, ils ont besoin aussi de repères. Hein. Il ne faut pas dire tout le temps oui, ni tout le temps non. Enfin, voilà, il faut un juste milieu, comme pour tout. Dans tout. Voilà.
Vous avez raison. Donc, on va passer à votre témoignage. Hein. De quoi vous voulez me parler exactement? Dites-moi.
Alors, en fait, moi, je voulais parler un petit peu de ce que j'ai vécu. Voilà, j'ai 43 ans, donc je suis née dans les années 79-80. Et du coup, voilà, on a eu une vie très compliquée et très difficile. C'est-à-dire, j'ai eu un papa qui était très absent. Qui était très très violent. On a connu donc des violences conjugales. Enfin, ma maman hein, surtout a été une femme battue pendant 42 ans. Elle a 65 ans, enfin elle a 66 ans aujourd'hui. Et, ça fait quoi 3 ans qu'elle a enfin pu partir du domicile et porter plainte et qu'il soit emprisonné. Mais avant tout ça, bon, il lui a quand même mené une vie très difficile, lui a cassé la mâchoire. Donc, devant nous, on était petits. Hein. On va avoir comme un pas 5 ans. Donc, voir ça, son père faire tout ça et tout ça. Donc, du coup, on n'avait pas le droit de trop parler, de trop pleurer. Voilà, c'était l'interdit. Mon père, il avait le droit de tout. Nous, on avait le droit de rien. Hein, ça, c'était comme ça.
Oui.
Et du coup, on est partis plusieurs fois en foyer grâce à une association qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la PAFED, sur la région de Bordeaux. Oui. En fait, je suis originaire du Sud-Ouest.
Oui.
Et je suis actuellement sur Paris, mais voilà, ça fait depuis 1999 que je suis sur Paris. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans et quelques années.
D'accord.
Voilà. Et en fait, on est parti en foyer plusieurs fois. On a dû changer d'école, on a dû changer d'amis. Donc, quelque part, grâce à cela, aujourd'hui, tout changement m'aide. Je déteste être sédentaire, je déteste faire toujours les mêmes choses. Avoir trop d'habitudes, je n'aime pas ça. C'est quelque chose qui m'a quand même aidée, au final, oui. Dans ma vie, pour plus tard. Donc on a vécu des choses assez difficiles. Mon père, malgré tout, il sortait énormément. Il avait plusieurs femmes aussi, hein, et tout ça. Et ma mère restait là, Elle revenait toujours parce qu'elle avait peur de nous élever. Enfin, elle a fait comme elle a pu à l'époque. Elle revenait toujours avec lui, quoi. Il a essayé de se soigner plusieurs fois, mais ça n'a jamais abouti. Il buvait beaucoup et du coup, à chaque fois, c'était compliqué. Mais malgré tout, j'ai quand même été une enfant où, comme j'étais l'aînée,
oui.
Du coup, je m'occupais énormément de ma maman quand elle était malade ou quand elle était couchée, enfin, qui la battait de trop. C'était moi qui faisais à manger, donc depuis l'âge de mes 10 ans, je sais cuisiner, enfin je sais faire plein de choses, hein, voilà. Donc j'ai dû grandir beaucoup plus vite que mon âge,
oui.
Au final. Il y a même une fois où mon père il était tellement alcoolisé qu'il avait un revolver et il nous a pointé, on avait quoi, 10-12 ans. Donc ce sont des traumatismes qui restent gravés à vie. J'ai vécu aussi, enfin malheureusement dans la famille, on a eu quand même j'ai eu des cousins et cousines qui ont profité de la situation à l'époque et j'ai connu aussi l'inceste et le viol et des attouchements. Voilà. Et ça c'est des choses qui vous restent à vivre, c'est des choses qu'on a honte, c'est des choses que on refoule et on se sent coupable. C'est horrible la sensation de culpabilité que l'on peut avoir, alors que c'est pas notre faute. On est, enfin, ça reste des enfants, quoi. Et moi, pour moi, la personne qui fait mal à un du mal à un enfant, enfin, c'est pas. Enfin, c'est facile de faire du mal à un enfant. Hein. C'est. Et c'est, moi, c'est toutes ces injustices-là aujourd'hui, ça me brise le cœur. Enfin, je supporte pas. Donc, voilà, c'est des choses qui me mettent hors de moi, on va dire. Tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche aux plus faibles, hein, moi, ça me.
Je comprends.
Voilà. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'après, bon, j'ai quand même grandi, hein. J'étais quand même une enfant très dégourdie, voilà, puis personne n'a jamais vraiment été au courant de ma situation, parce que j'en ai jamais vraiment parlé à personne, même à l'école et tout ça, on n'en parlait pas, hein. On gardait ça pour nous, on disait rien. J'étais toujours souriante, voilà, j'étais toujours la bonne copine voilà, qui rigolait, qui ont passé des bons moments. Et j'étais celle qui, j'essayais toujours de booster tout le monde, en fait. Et c'était mon truc. Même mes copines, des fois, c'était comme ça. J'étais, on va dire, le. Je sais pas, à l'époque, je me rappelle encore, on avait créé un groupe, on était en foyer sur Arcachon.
Oui.
Et on avait créé un groupe de, je sais pas, vous savez, comme à l'époque, les tulipes noires. Je sais pas si vous vous rappelez du dessin animé, il y avait un dessin animé.
Pas vraiment, non, pas vraiment.
Non, voilà. Et du coup, moi, j'étais en fait la chef de gang, on va dire. Et du coup, bon, on s'amusait comme ça entre enfants, et en fait, c'était moi qui décidais un petit peu de comment ça devait se passer, quoi. On va dire j'aimais bien, enfin, prendre quand même les décisions et dire les choses, donner mon opinion et tout ça. Et je pense que ça m'a toujours aidée dans ma vie. Puisque malgré tout, après, quand j'ai grandi, hein, je suis partie très jeune de chez mes parents, hein, pour pouvoir étudier.
Oui.
J'allais énormément à la bibliothèque pour pouvoir m'aider, hein, parce qu'à l'école, comme j'avais pas d'aide du tout, je trouvais toujours quelqu'un pour m'aider, pour avoir des notes. Bon, j'étais pas très bonne, mais j'étais toujours au-dessus de, on va dire, 11-12. Voilà. Donc, et les études aussi m'ont énormément aidée dans ma vie au quotidien. Et du coup, j'allais beaucoup à la bibliothèque. Je me faisais aider par le maximum de personnes possibles. Et comment dire, voilà, j'avais cette envie de m'en sortir et d'avancer, en fait. Et je faisais toujours des trucs, des concours. On faisait des concours pour la LICRA ou la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Bon, j'avais gagné le troisième prix. J'avais fait des concours de dessin. J'aimais bien, en fait, tout ce qui était un peu... qui changeait de l'ordinaire,
oui,
en fait.
Oui.
Et en fait, après, malgré tout, voilà, je suis partie sur Saint-Jean-de-Luz. Faire mes études, donc j'ai fait tout ce qui était artisanat métier d'art, voilà, j'aimais beaucoup ça, je voulais être styliste modéliste,
oui,
à l'époque. Et en fait, après, finalement, ma vie n'a pas été du tout faite comme ça, puisque j'ai rencontré mon mari, j'avais 18 ans, et du coup, je suis partie sur Paris, parce que lui, il était parisien, et je suis partie sur Paris. Mais j'ai quand même continué mes études. Je voulais pas lâcher mes études, donc j'ai passé un bac professionnel. J'ai passé après un BTS, alors qui n'avait rien à voir, parce qu'après je suis partie dans tout ce qui était commercial, donc l'action commerciale. Et puis, donc que j'ai raté, hein, et que j'ai passé plus tard. J'étais enceinte de ma fille de 7 mois,
oui,
quand j'ai repassé l'examen, parce que c'était mon but. Je voulais absolument obtenir ce diplôme pour pouvoir après un jour avoir un travail correct, un salaire correct et pour pouvoir m'en sortir dans ma vie, quoi.
Très bien. On va marquer une petite pause, Elisabeth, et puis on va laisser passer l'info sur Europe 1. Comme ça, on
D'accord.
pourra conclure tranquillement juste après. Et
D'accord.
vous connaissez Raphaël Delvolvé?
Un petit peu.
Un petit peu. Et il gagne à
Oui.
être connu, je vous le dis.
Voilà.
Bon, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord? Le temps que l'info passe sur
D'accord.
Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. Il vous reste 54 minutes, 55 minutes même pour nous appeler. Vous composez le 3921 et Florian ou Julia sont là et attendent vos appels. Pour l'instant, nous sommes avec Elisabeth, Elisabeth dont le père est un homme violent qui a terrorisé sa famille toute sa vie. Elisabeth, quel impact ça a sur votre vie de femme aujourd'hui, cette violence vécue et finalement une vie tumultueuse hein, dans vos jeunes années à cause de cet homme?
Ah oui, ça a été compliqué, mais en fait, quelque part, ça m'a quand même révoltée. Et du coup, j'ai quand même eu une grande colère pendant pas mal d'années.
Oui.
Vu que je n'en parlais avec personne, bon, ça m'a quand même pas mal détruit parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé après, par la suite. Je vais vous en parler après, mais du coup, cette colère m'a quand même aidée à avancer parce que j'étais quand même quelqu'un qui ne baissait pas les bras et quelqu'un d'assez rebelle, en fait, entre guillemets. Je faisais souvent le contraire de ce qu'on me demandait. Parce que justement, j'avais ce caractère-là de pas me laisser faire, en fait. Mais j'ai toujours eu peur de mon père jusqu'à, bah, on va dire, jusqu'à pratiquement mes 40 ans. J'avais cette peur. Ouais, voilà. C'était une peur inexplicable, on ne peut pas comprendre. Et même si je n'habitais plus avec mes parents, on faisait tout pour que tout se passe bien et tout ça. Mais c'était une peur qui vous qui paralyse, qui voilà, vous n'êtes pas libre. Moi, pendant des années, ben, j'étais fumeuse, je fumais pas devant mon père. Enfin,
Oui.
c'était très, voilà, il fallait être un peu la petite fille modèle parfaite et pas trop de débordements. Bon, heureusement, je n'étais pas dans l'optique de me détruire, hein, mais j'aurais pu très bien mal tourner, oui, complètement.
Et au final, vos relations avec votre père aujourd'hui sont
Ah,
zéro,
nul,
nulle, oui.
zéro, oui, complètement, parce que je ne lui parle pas du tout, je ne veux pas le voir,
Oui.
parce que pendant des années, on a fait des efforts, mes frères et moi, et ma petite sœur, de faire l'effort pour lui, pour ma mère surtout, hein, parce que
Oui,
bon,
oui.
et au final, voilà, dès qu'on lui a plus parlé, il nous interdisait de voir ma mère, on pouvait plus lui parler, et c'était pas possible. Voilà. Et je lui ai dit, parce qu'il a quand même menacé mon frère il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018,
Ah
hein,
oui,
de lui
donc
mettre une balle.
c'est récent.
Assez très récent, oui. Ça fait pas longtemps.
Donc il
Il est
est
sorti de
encore un
prison il y a
peu.
quelques mois.
Ah oui.
Ah, il est encore en sous sursis, hein. Oui.
D'accord, il est encore. Et il vous menace toujours.
Ah oui, là encore, il menace de mort hein, et tout ça. Donc on est obligé de faire attention. Après, ça ne veut pas dire qu'il va les appliquer, mais c'est vrai que les choses en. Je me rends compte qu'au final, ayant connu le système de la femme, la violence faite aux femmes, le système a très peu évolué, hein. Les femmes, elles sont très très mal protégées, les enfants aussi, et c'est vraiment une catastrophe. Moi, ma mère, je sais qu'elle est revenue avec mon père la deuxième fois de foyer, parce que justement, comme elle n'avait pas porté plainte, elle avait le droit aux enfants, enfin, il avait le droit aux enfants comme si rien n'était. Et voilà quoi. Et du coup, ma mère, ça, elle n'a pas supporté. Elle est revenue en fait avec lui pour ça, à cause de ça en fait.
D'accord.
Et je trouve ça dommage et. Enfin, on pourrait faire tellement de choses pour protéger les femmes, mais je trouve que les femmes, même encore aujourd'hui, il n'y a pas assez de protection pour les femmes. Enfin, elles se font des écoutes, on les croit pas. Moi, la seule fois où j'ai appelé la police, je devais avoir quoi, 12-13 ans, où j'ai eu le courage d'appeler, ils sont venus, et puis à l'époque, bah, et ils sont repartis parce qu'ils ont dit, ah ben non, c'est un conflit... interne, intrafamilial, du coup, on ne peut pas intervenir. Et là, je me suis dit, bon, bah, du coup, jamais personne ne va nous aider. Et en fait, toute ma vie, je me suis toujours débrouillée toute seule, en fait. Parce que, avec la peur de demander aux... Enfin, la peur. On va dire, j'ai jamais demandé aux autres, même quand j'ai été gravement malade et tout ça,
oui.
J'avais du mal à demander de l'aide aux autres. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de se rendre compte qu'au final, des fois, on a besoin de demander de l'aide aux autres.
Mmh.
Et que, bah, à cause de tout ça, finalement, bah, comme on a toujours compté que sur soi-même, eh bien, on fait tout par soi-même. Sauf que malheureusement, des fois, on aurait bien besoin de l'aide d'autrui. Et pourtant, des fois, j'avais des gens qui me demandaient si tu as besoin d'aide pour te faire des courses ou des trucs, mais... J'ai tellement toujours compté que sur moi que au final je n'arrivais même pas à voir tout ça.
Oui.
Voilà.
Bon, voilà ce que ça peut produire comme séquelles hein, de
exactement.
De vivre ce genre de choses.
Exactement, exactement.
Bon, mais et vous semblez bien aller aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même. Parce que vous savez, enfin, quand j'ai eu ma fille hein, qui a 16 ans aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé parce que tout est remonté à la surface. Moi, j'avais tellement mis du cœur à l'ouvrage pour tout enfouir au fond de moi, pour aller, hop, on met un pansement, on repart. Et puis moi, je suis quelqu'un, voilà... téméraire et je vais jusqu'au bout voilà moi c'était le boulot et voilà je voyais rien d'autre
oui.
Et au final on met tout ça au fond et bah, le jour où j'ai eu ma fille bah là il y a tout qui est revenu à la
ouais,
surface
ouais, bien sûr, ouais. D'accord.
Et là ça a été une catastrophe parce que je craignais tout le temps pour ma fille j'avais peur bah, de l'emmener à la crèche hein. J'avais toujours peur qu'on lui fasse quelque chose qu'on lui fasse du mal. Et même aujourd'hui, bon, je lâche du zeste, mais j'ai toujours peur voilà, qu'il lui arrive quelque chose ou comme ça. Bah, suite au traumatisme, hein, c'est comme ça. Et en fait, peu de temps après que j'ai eu ma fille, 3 mois après, j'ai fait un micro-AVC. Et du coup, je suis restée paralysée tout le côté gauche. J'ai eu du mal, en fait, j'ai encore des séquelles aujourd'hui de tout ça. Hein. J'ai eu des paralysies, voilà, des problèmes neurologiques. J'ai même développé une narcolepsie cataplexie, c'est-à-dire, je m'endormais, des fois on me parlait, j'étais au téléphone, je répondais, mais
oui.
Je ne savais pas ce que je disais. J'étais complètement, et puis des fois mon corps, il lâchait. Et du coup, j'ai eu un traitement lourd basé en amphétamine, ça s'appelait le Modiodal à l'époque. J'étais suivie sur Argenteuil avec le docteur Renoir-Dière. Et en fait, voilà, je m'endormais, enfin, j'avais une fatigue intense, c'était horrible, mais je n'ai pas lâché mon boulot. Je continuais à aller travailler, je faisais les examens en dehors de mes heures de travail. Des fois, j'étais hospitalisée pendant toute une journée, le lendemain, j'allais travailler et j'avais ma fille à m'occuper. Puis, enfin, voilà, il fallait gérer tout plein de choses. Voilà. Par la suite, j'ai eu un accident très grave de voiture en Espagne. Avec mon mari et ma fille, où j'ai failli y passer.
Ah oui, carrément.
Concrètement. Oui, parce qu'en fait, c'est mon mari qui m'a sauvée peu de temps, peut-être aller 5 minutes avant l'accident, l'impact. Il m'a baissé mon siège, chose qu'il ne fait jamais. Il m'a baissé le siège, sinon j'aurais été décapitée.
Voilà.
Je ne serais plus là aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu pas mal de choses au niveau du visage. J'ai pratiquement tout récupéré, mais j'ai été pas mal amochée. Je devais me faire opérer avec hémorragie interne, j'ai eu le bassin déplacé. Pour vous dire, même j'avais un stérilet à l'époque, même le stérilet était tordu et tout était cassé dans la voiture. Ma fille, heureusement qu'elle n'était pas sur le siège auto, je l'avais détachée pour l'allonger un petit peu avec la ceinture, heureusement. Et en fait, j'avais des vêtements sur la plage arrière de la voiture qui l'ont pris en sandwich. Donc elle a rien eu, même pas une coupure, rien. C'était un miracle pour moi, hein, parce que
qu'est-ce
même
qui s'est
moi,
passé hein, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben en fait, mon mari il s'est endormi.
D'accord.
Il s'est endormi et en plus il devait s'arrêter. Je me rappelle m'être réveillée et lui demander ça va, tout va bien, tu veux qu'on s'arrête? Et lui il me dit je m'arrête dans 5 minutes. Ben non, les 5 minutes c'était de trop et du coup, on a foncé contre un camion et tout mon côté est monté sur le camion. Si vous préférez, du coup, tout mon côté a été aplati. Et du coup, je ne pouvais pas sortir de la voiture. Voilà, j'avais plein de verres dans la bouche, dans les yeux. Et du coup, en plus, c'était en Espagne. Donc, bon, nous, on est d'origine portugaise, ça va. On comprend un petit peu quand même.
Oui.
Mais ça a été compliqué quand même. Et je me rappelle juste, parce que moi j'ai perdu connaissance et tout ça, je me rappelle juste avoir demandé où était ma fille. Et c'est tout. Et après, bah, je me suis arrivée à l'hôpital. J'ai dû être hospitalisée plus de 15 jours. Mais ça a été comme un miracle parce que je devais me faire opérer pour une hémorragie interne en 2 jours. En fait, comme ma fille a dû être transférée en France, parce qu'il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien pour qu'elle puisse dormir et qu'elle n'avait que 4 ans. Du coup, j'ai de la famille qui sont venues jusqu'en Espagne me récupérer la petite. La petite a fait le trajet jusqu'à Bordeaux, de Bordeaux, Paris. Paris, elle a fait la rentrée scolaire avec une amie à moi, parce que je ne voulais pas qu'elle rate, c'était la rentrée du CP. Et en fait, elle a développé des séquelles par la suite parce qu'elle est dyslexique, dysorthographique, dyspraxique. Et je pense que c'est suite à ce traumatisme-là qu'elle a eu tout ça.
Bon, en tout
et
cas...
en fait, le fait d'être séparée de ma fille, bah, ça m'a fait reprendre du poids de la bête. Et voilà, j'en suis sortie, voilà, pas indemne parce que j'ai eu une canne pendant pas mal de temps, hein, pendant des années. Je ne pouvais plus marcher, voilà, je ne faisais même pas à 500 mètres. Hein. Je boitais beaucoup, j'ai vu pas mal de chiropracteurs, ostéopathes qui m'ont beaucoup aidée, enfin plein de choses, et puis tout un travail. Hein, ça a été long, hein. C'était en 2011 hein, mon accident, du coup, j'ai quelques temps.
Bon, en tout cas, vous allez écrire tout ça dans votre livre. Ne manquez pas de venir nous en parler hein, quand il sera écrit et quand il sortira. Et vous connaissez le chemin maintenant, d'accord ?
Oui, bah merci en tout cas.
Je vous en prie, Elisabeth.
Et puis, j'espère à très bientôt. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour tout le monde, surtout. Et puis, du bonheur et profiter de la vie, surtout, parce que la vie est courte. Donc, n'oubliez pas de vivre, même de par la maladie, même de tout le reste. Faut toujours être en mouvement et essayer d'avancer, en fait. De faire des petits challenges, même si c'est des minimes challenges, mais toujours avancer. Voilà, c'est ce que je conseille aujourd'hui aux gens qui m'écoutent.
Très bien, Elisabeth. Ben, on vous embrasse bien fort. Passez une bonne soirée.
Également. Bonne soirée. Merci pour tout, Olivier. Au revoir.